cruzamento da Europa.
Rascrucha Europei.
Stavrodrome des Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Léa Lisa Vesterov.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe et de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles pour une émission spéciale consacrée au sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. 40 chefs d'État africains ont fait le déplacement pour parler les yeux dans les yeux avec les Européens après 2 ans de pandémie mondiale. Enjeu, la relation entre les deux continents, leur relation commerciale d'abord. L'Europe reste le premier investisseur en Afrique, mais il n'est pas le seul. Le continent est de plus en plus courtisé par d'autres puissances et compte bien choisir avec qui il veut coopérer. Enjeu aussi, la stabilité du continent africain, car sans paix et sans sécurité, il ne peut y avoir de coopération ou d'investissement. L'Europe peut-elle offrir le partenariat gagnant-gagnant qu'elle promet à l'Afrique? Peut-elle aider efficacement son gigantesque voisin du Sud à rétablir la paix dans les pays menacés, gangrénés par les groupes djihadistes? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Maria Arena, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, également présidente de la Commission des droits de l'homme. Avec nous également Saïd Djinit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine, haut fonctionnaire auprès de l'ONU et actuellement conseiller spécial auprès de l'Institut européen pour la paix. Sane Bilal, chargé des questions économiques pour le Centre européen de gestion des politiques de développement, votre think tank travaille principalement sur l'Afrique. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, Vivanou Gnassounou, bonjour. Vous êtes économiste spécialiste des politiques du développement européen puisque vous avez été pendant 15 ans négociateur au sein du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Bonjour, bienvenue à vous.
Merci, bonjour.
Alors ce sommet, ça a été d'abord l'occasion d'officialiser le retrait militaire du Mali par la France et ses partenaires européens en raison des relations de plus en plus tendues avec la junte au pouvoir à Bamako. C'est la fin du plus gros déploiement de militaires français à l'étranger après 9 ans de lutte anti-djihadiste, mais la fin aussi de la force européenne Takuba qui devait réunir des militaires d'une dizaine de pays européens, tout un symbole pour Paris qui avait beaucoup œuvré pour la création de cette force. Maria Arena, je me tourne vers vous d'abord. En tant que représentante du Parlement européen, ce retrait dans un climat de défiance très fort au Mali, ça veut dire que la stratégie européenne de lutte contre le terrorisme en Afrique ne marche pas?
En tout cas, on doit évaluer la manière dont les Européens envisagent la lutte contre le terrorisme et l'approche militaire telle qu'elle a été déployée a montré une part de son inefficacité aujourd'hui et le fait que les peuples aujourd'hui dans ces pays ne se sentent pas protégés aujourd'hui par ces forces étrangères. Et donc on doit vraiment s'interroger sur l'approche militaire qui souvent nie une approche beaucoup plus globale de la situation dans ces pays, c'est-à-dire des populations qui sont loin des capitales, qui sont souvent oubliées, des projets qui concernent les pays et les projets de développement en particulier, des populations qui ne se sentent pas représentées au niveau de la gouvernance non plus. Et donc il faut vraiment s'interroger aujourd'hui, évaluer. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la lutte contre le terrorisme parce que elle tue, en fait, ce terrorisme tue aujourd'hui les populations. Donc il faut continuer à réfléchir à une nouvelle stratégie qu'il faudra avoir dans la région pour effectivement lutter contre ce radicalisme, cette criminalité qui règne dans la région.
Saïd Djinit, vous avez été commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine jusqu'en 2014. En 2013, les Français étaient accueillis comme des libérateurs au Mali. Aujourd'hui, ils partent dans un véritable climat anti-français. C'est la preuve de l'échec d'une défense européenne ou cette force fait-elle les frais de l'impopularité des Français, Monsieur Djinit?
Je crois qu'il y a un peu de tout ça et c'est aussi le signe que les temps ont changé et qu'il est temps d'adapter le dispositif militaire à la réalité du Sahel. Je pense qu'il est temps de mettre en avant d'abord les forces de sécurité, les forces militaires maliennes, avec le soutien des partenaires. Les partenaires d'abord de la région et de l'Afrique, et ensuite les partenaires extérieurs, évidemment. Je reste que moi, je suis attaché au modèle que nous avons utilisé dans d'autres foyers de tensions terroristes comme en Somalie et au Mozambique où des forces africaines ont été déployées avec le soutien de partenaires extérieurs.
Mais pourtant, Monsieur Djinit, à partir de 2014, la France a associé la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad à cette force militaire. Et pourtant, Cette force se retire aujourd'hui dans un climat de défiance très fort. Est-ce que ça veut dire que cette présence africaine était insuffisante ?
Non, la présence africaine, pour moi, je veux dire, bon, il s'agit, là, vous parlez de la France qui a associé des Africains. Il s'agit de faire le contraire, que les Africains associent les partenaires extérieurs. Je pense que c'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être ajuster, adapter le processus. Et je crois savoir que l'idée est de mettre en avant d'abord les forces nationales. Et je vois que déjà les autorités actuelles du Mali s'efforcent de monter en puissance leur réponse, leur riposte à la menace terroriste. J'ai vu ces dernières semaines quelques activités qui montrent qu'il y a une volonté de marquer leur présence militaire. Mais il s'agit de mettre en avant d'abord les forces nationales des pays concernés avec le soutien des pays africains et ensuite des partenaires extérieurs.
Vivianou Knasnou, je me tourne vers vous. Que faudrait-il faire pour que cette lutte antiterroriste soit plus efficace ? Il faut moins de bases militaires, plus d'aide aux populations civiles, comme le suggère maintenant la France ?
Je pense qu'on peut, si on remonte aux bases de tous ces éléments, de tous ces problèmes, effectivement, il s'agit de drames sociaux dans tous ces pays. Je pense que tout le monde le sait, le terreau du terrorisme, on sait d'où ça vient, on sait ce que c'est. Donc, effectivement, il y a une coopération à faire. Mais c'est vrai que c'est quand même interpellant qu'on se retrouve dans une situation où un pays, on sait manifestement qu'il a besoin de l'appui extérieur pour pouvoir combattre ce problème, se trouve dans une situation où il est obligé de demander à ce que ceux qui sont venus l'appuyer se retirent. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit fait vraiment de manière très légère. Il y a une réflexion là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, il faut peut-être que tout le monde un peu ravale un peu son ego et qu'on se retrouve dans un dialogue pour comprendre comment est-ce que, d'abord, appuyer la population, effectivement. Je pense que le problème est là. Il y a un problème économique à la base. Il y a un problème...
Comme disait Maria Arena, la population civile doit être plus au centre.
Bien sûr, je pense que c'est ce dialogue-là qu'il faut remettre d'abord sur la table et voir comment est-ce que, dans un schéma beaucoup plus cohérent, que les autorités maliennes qui sont aujourd'hui là en place puissent proposer leur schéma de défense. Qu'est-ce que eux, ils ont sur la table, qu'est-ce qu'ils proposent ? Et comme le commissaire Djinnit vient de le dire, à ce moment-là, apporter une réponse dans la mesure du possible et engager un dialogue. Parce qu'on est tout le temps dans la logique de l'appropriation. Mais l'appropriation suppose que dans un premier temps, quelqu'un exprime une demande, un besoin. Et ensuite, on voit dans quelle mesure on apporte une réponse à ces besoins. Bon. Et les besoins de la population à la base, c'est se lever, manger, se vêtir, s'éduquer et avoir accès à la santé.
Sanbila, je me tourne vers vous. L'Europe ne pourra pas aider une Afrique où l'instabilité et l'insécurité règnent. Ce sont les mots du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, ces derniers jours. Sanbila, est-ce que l'Europe a un rôle à jouer, selon vous, dans le maintien de la paix ou la lutte contre le terrorisme ?
Oui, absolument. D'abord, je crois qu'en effet, la situation au Mali montre les limites d'une approche purement militaire. Donc, il y a un besoin d'avoir une approche qui soit beaucoup plus globale, qui inclut évidemment le rôle de la société civile, qui est vraiment important, mais y compris du secteur privé, d'avoir une approche de développement et donc de combiner l'approche gouvernance, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'au Mali, c'est une junte qui est au pouvoir, résultat d'un coup d'État. Donc, on ne parle pas non plus d'un régime qui est forcément qui représente la population au Mali. Donc, je pense qu'il faut avoir cette approche combinée militaire, diplomatique, de développement basé sur les besoins des populations. Et je crois que l'Union européenne devrait faire un effort, et elle commence à le faire, mais devrait le faire beaucoup plus, de travailler, et la France également, de combiner son approche d'aide au développement à travers des institutions, en renforçant les institutions et les capacités locales, pas avec, en amenant simplement des dons de l'extérieur, mais renforcer les structures locales, combiné avec une approche militaire et de défense qui reste importante, évidemment.
Oui, alors Saïd Djinnit, je m'adresse à vous justement dans cette idée de prévention. Il y a cette facilité européenne pour la paix qui a été créée l'année dernière et qui remplace la facilité africaine pour la paix. 5 milliards d'euros pour prévenir les conflits, préserver, renforcer la stabilité et la sécurité internationale ces 6 prochaines années. Mais là non plus, ça n'a pas vraiment aidé au Mali, Saïd Djinnit.
Écoutez, bon, je suis désolé qu'on ait mis fin à la Facilité africaine pour la paix parce que je pensais que c'était un instrument formidable.
Vous pensez qu'il aurait fallu préserver l'instrument africain ?
Absolument, parce que c'était un instrument qui a facilité grandement le rapprochement entre les deux organisations et les deux continents. J'ai vu, pour avoir été à la base de cette initiative de la Facilité africaine pour la paix en 2003-2004, comment ça contribue à rapprocher les deux continents et rapprocher et renforcer le partenariat, notamment dans le domaine paix et sécurité. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on en arrive à faire une facilité plus large. Évidemment, c'est la décision de l'Union européenne qui veut disposer de ses ressources de la façon dont elle juge utile.
Mais pourtant, Monsieur Djinnit, à l'époque, quand vous étiez commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, il y a eu des missions de paix africaines en Somalie, au Darfour. Ça n'a pas mieux fonctionné?
Non, ça a bien fonctionné, parce que c'était l'initiative africaine avec le soutien financier, politique, stratégique de l'Union européenne. Moi, j'étais au cœur de ce dispositif et je peux vous dire que j'étais très, très, très content de la relation entre... Nous n'avons jamais été aussi proches que pendant ces années-là où on a travaillé sur le Darfour et la Somalie. Autour de l'appui financier à travers la facilité, il y a eu un dialogue politique entre l'Union européenne et l'Union africaine. Et nous étions très, très, très proches. Et la facilité africaine pour la paix a grandement contribué à ce dialogue et à ce rapprochement.
Donc, il aurait fallu la conserver, selon vous?
À mon avis, oui, absolument. Et parce que c'est une façon aussi de... Puisqu'on veut travailler avec l'Union africaine, la facilité africaine pour la paix était mise, d'une certaine façon, à la disposition de l'Union africaine, évidemment en relation avec l'Union européenne. Et donc, ça provoque un dialogue entre les deux institutions, mais la décision revient à l'Union africaine. Là, maintenant, la décision est reprise et elle appartient à l'Union européenne de décider elle-même où elle veut affecter ses fonds de façon souveraine. Et donc, l'Union africaine est, de ce point de vue, écartée du processus de décision.
Comment ça s'explique ?
Ça s'explique par l'Union européenne, parce que je pense qu'ils, compte tenu des circonstances du contexte mondial, ils ont voulu se doter d'une facilité plus large, qui est mondiale, même si une partie sera consacrée à l'Afrique. Mais le déboursement se fera directement à des pays ou à des organisations par une décision de l'Union européenne. Et ce n'est plus un système de décision qui passe par l'Union africaine. Donc, cette relation stratégique n'est plus là, elle est désormais changée en décision unilatérale de l'Union européenne en fonction de ses intérêts.
Maria Arena, vous souhaitez répondre ?
Alors, plusieurs choses par rapport à ce qui est dit. La première, je pense qu'il est important, comme ça a été dit, de partir du besoin qui est exprimé par les pays africains et de soutenir le besoin exprimé par les pays africains par une approche, qu'elle soit militaire, développement ou autre. Et donc ça, je pense que c'est une première chose qu'il faut remettre sur la table, donc partir de ce besoin. Manifestement, dans le cadre du sommet que nous avons aujourd'hui, encore une fois, on part des besoins européens en matière de sécurité, en matière migratoire, en matière d'investissement, et beaucoup moins au départ du problème aujourd'hui qui est vécu au niveau de l'Afrique. La deuxième chose, je pense qu'on doit vraiment aussi éviter de penser que les choses arrivent aujourd'hui. Si on prend cette question du djihadisme, pensons comment la Libye et l'instabilité de la Libye a joué un rôle sur la déstabilisation de toute la région du Sahel. On doit assumer une forme de responsabilité par rapport à ce qui s'y est passé. La circulation des armes par la Libye dans la région du Sahel est extrêmement importante. Et aussi, cela est venu s'ajouter à des mouvements qui existaient bien avant, sur les mouvements indépendantistes au Mali. Et donc, toute cette compréhension-là, elle nécessite vraiment un point de départ qui est un point de départ africain et non pas une logique européenne qui est de dire comment peut-on, nous, garantir notre sécurité contre le djihadisme. La première chose qu'il faut garantir, c'est la sécurité des populations locales par rapport à ces difficultés et donner le champ aux responsables africains de discuter avec les interlocuteurs qui leur semblent, je dirais, les plus adéquats. Ce qui m'embarrasse beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que la décision française est prise en réaction par rapport à la présence de la Russie sur le territoire et donc par rapport à Wagner sur le territoire. Et donc on a l'impression que se joue aujourd'hui au Sahel un débat entre des forces internationales qui jouent leur influence sur le continent africain plutôt que de revenir sur les besoins des populations. Et donc comment voulez-vous que les populations aient confiance en nous si notre débat est un débat international et non pas un débat local? Donc je plaide pour qu'on revienne sur des solutions locales dans l'intérêt des populations locales.
Alors justement, Maria Arena, les Européens réfléchissent encore à rester au Mali. Quelles sont les conditions nécessaires pour que les pays européens continuent d'envoyer des contingents à la mission de paix des Nations Unies au Mali, par exemple, et continuent les formations? Est-ce que se retirer du Mali, ce n'est pas prendre le risque, comme vous le disiez, de laisser le champ libre à cette milice privée Wagner qui ne respecte pas les droits de l'homme? C'est une inquiétude soulevée par les Allemands, notamment.
Bien sûr, mais on ne peut pas blâmer les responsables locaux si on laisse le champ libre, ils devront chercher des partenaires parce qu'ils n'auront pas la possibilité seuls de régler un problème qui est un problème de haute criminalité dans la région. Donc c'est assez compliqué comme situation parce que dire on leur demande de ne pas avoir de partenariat avec d'autres, mais en même temps ce que nous faisons n'est pas satisfaisant pour les populations. Donc remettons les choses sur la table et c'est d'ailleurs ce que le Mali a dit. Il n'a pas dit nous ne voulons plus de vous, il a dit remettons-nous autour de la table pour voir ce qui est le plus efficace par rapport à la menace à laquelle nous sommes confrontés. Et donc, c'est un peu ce qu'on a dit, ce n'est pas une stratégie européenne à laquelle on associe les Maliens ou les pays du Sahel, c'est une stratégie du Sahel à laquelle on associe les forces étrangères. Et je pense que c'est ça qui est vraiment le nœud du problème.
L'Afrique a changé, beaucoup changé. Malgré quelques contre-performances, la cause de la démocratie gagne du terrain en Afrique. Sur plus d'une décennie, la croissance y a été régulièrement supérieure à la moyenne mondiale, même si elle est aujourd'hui freinée par les effets sévères de la pandémie COVID-19. Comme partout ailleurs, les peuples africains voient le monde en instantané. Ils aspirent légitimement au mieux-être et à la prospérité. Cette Afrique en pleine mutation veut des partenariats consensuels et mutuellement bénéfiques, des partenariats co-construits sur le fondement de priorités et valeurs partagées, sans injonction civilisationnelle, sans exclusion ni exclusivité.
Alors le président sénégalais Macky Sall le dit, on ne peut plus clairement ici, l'Afrique veut un partenariat renouvelé, plus qu'une mise à jour, a dit Macky Sall, un nouveau logiciel. Pourtant, le dernier accord de partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne n'est pas très vieux, il date de 2020. C'est l'accord post-Cotonou, il parlait déjà de soutien à la démocratie, à la paix, à la sécurité. Saïd Djinnit, en tant qu'ancien fonctionnaire de l'Union africaine, cet accord de Cotonou, il est dépassé selon vous ?
Ah oui, moi je suis de ceux qui pensent que l'Afrique et l'Europe ont raté une occasion en or lors des négociations sur l'arrangement post-Cotonou pour aller de l'avant vers un partenariat, une relation stratégique de continent à continent, quand je dis continent du nord au sud et de l'est à l'ouest, avec un cadre juridique bien précis et pour sortir du carcan paternaliste des ACP, voire néocolonialiste des ACP. Je pense que nous méritons d'être liés entre les deux continents et les deux organisations, d'être liés par un partenariat stratégique, audacieux, moderne et qui est vraiment débarrassé de tous ces carcans du passé et qui sera vraiment articulé autour des besoins du continent, autour de la vision 2063 de l'Union africaine, d'un continent uni, avec toute son architecture de paix, de sécurité, de gouvernance et ses initiatives économiques, notamment la zone de libre-échange, et que l'Europe traite le continent en tant que continent dans son intégralité. Comment peut-on justifier qu'on puisse traiter l'Afrique en deux entités ? Une entité subsaharienne, dans le cadre des ACP, et une entité nord-africaine dans le cadre des accords avec les pays d'Afrique du Nord. Donc, c'est une façon de diviser le continent. Je pense qu'on a raté l'occasion d'embrasser l'avenir avec un partenariat direct entre de continent à continent, d'organisation à organisation, et sortir du contexte et du carcan des ACP.
Vivanou Gnassounou, vous avez été pendant 15 ans négociateur au sein du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse de M. Djinnit ?
Non, je l'entends bien, d'autant plus que les 5 dernières années, j'étais secrétaire général adjoint du groupe et donc j'ai joué un rôle crucial dans cette négociation.
C'est une occasion manquée ?
Je ne pense pas, absolument pas là. Je me dissocie un peu de l'approche de l'appréciation de M. Djinnit parce que je pense qu'on parle d'État souverain. Moi, j'ai des difficultés à entendre que l'Europe a forcé l'Afrique à se diviser en deux. Les 48 pays africains qui sont au sein du groupe ACP, ce sont les mêmes pays qui participent à l'Union africaine. Donc, que ce soit des ambassades de Bruxelles ou d'Addis Abeba, au minimum, ils reportent au moins au même ministre des Affaires étrangères et après au même chef d'État. Donc, je pense que les pays en toute souveraineté, J'entends que l'Union africaine aurait voulu peut-être en tant qu'institution que les choses se passent différemment, mais alors à ce moment-là, il y a une discussion à avoir au sein de l'Union africaine. Parce que ce sont les mêmes pays qui appartiennent à l'Union africaine qui ont décidé toute souveraineté, et je sais que le débat a été long, on ne va pas revenir là-dessus aussi. Il a fallu un sommet extraordinaire des chefs d'État pour pouvoir décider que non, nous décidons que nous allons continuer à négocier au sein du groupe ACP l'accord post-Cotonou, parce que ça a également ses avantages. Mais nous décidons également qu'on y associe étroitement l'Union africaine parce que nous voulons que, vous savez, c'est un nouvel accord différent des autres parce qu'il y a un pilier africain. Nous voulons que ce pilier africain soit totalement négocié avec l'inclusion de l'Union africaine. Effectivement, là, à ce moment-là, par contre, il y a eu un rendez-vous manqué parce que même si au niveau des négociateurs de cet accord, on a pris en considération l'agenda 2063, on a pris en considération toutes les priorités de l'Union africaine, mais il n'y avait personne de mieux que l'Union africaine.
Mais aujourd'hui, Monsieur Gnassounou, tout le monde plaide visiblement pour un nouveau partenariat, donc c'est que cet ancien partenariat ne fonctionnait pas.
Mais l'ancien ne fonctionnait pas, il a fonctionné, mais comme tout partenariat, il y a des éléments qu'il fallait corriger.
Et
je peux vous assurer que le nouvel accord post-Cotonou, en tout cas tel qu'il a été ratifié, il n'est pas encore en vigueur, il y a encore un processus de ratification qui est long. Donc on est pour l'instant en train d'appliquer encore l'ancien accord de Cotonou. Les nouveaux éléments sont des éléments qui prennent en considération les demandes qui sont les demandes du Sud. On parle de l'Afrique ici notamment, notamment au niveau politique. On a parlé aujourd'hui d'apporter un appui plus au mécanisme de règlement des conflits au niveau africain. Donc, et c'est, effectivement, on peut entendre qu'à ce même moment, on fait disparaître la Facilité africaine pour la paix, pour la remplacer. Mais ça fait partie d'une évolution, j'allais dire, des instruments de coopération au niveau européen. Et j'allais dire, je regardais Mme Arena, parce que c'est vrai que du coup, l'Union africaine en tant qu'institution, comme tous les pays, hein, ce qu'on appelle les ordonnateurs nationaux, régionaux, qui avant avaient la maîtrise de la mise en œuvre des instruments, vont avoir, ils disparaissent, ils n'ont plus de rôle. Mais on renforce le rôle du Parlement en termes de contrôle, au moins sur le papier. Et donc, il faudra aussi qu'on change le dialogue parce que les partenaires à la coopération devront apprendre aussi à peut-être aller, parcourir les couloirs du Parlement européen un peu plus pour pouvoir les avoir comme alliés pour identifier des éléments. Mmh. Donc, il y a également au niveau économique que les choses ont beaucoup changé. C'est un cadre général qui est donné et qui met plus l'accent sur l'inclusivité, la croissance inclusive et la transformation, c'est-à-dire l'appropriation de la valeur ajoutée au niveau local. Mais il s'agira maintenant dans des sommets comme celui-ci qui est en train de s'achever, de donner corps à cet ensemble.
L'Europe est le plus ancien partenaire de l'Afrique, Maria Arena. On a senti pendant ce sommet beaucoup de scepticisme du côté des Africains. Vous pensez que l'Europe doit mieux faire ?
Oui,
faire autrement ?
Bien sûr. Pour revenir sur la question de considérer la relation Union européenne-Afrique dans son ensemble, c'est-à-dire en prenant à la fois l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, je pense que c'est important de pouvoir avoir cette approche-là. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir une superposition d'outils. L'Union européenne, on a le projet politique économique de l'Union européenne, mais l'Union européenne est aussi sur un continent sur lequel on a d'autres instruments pour travailler avec des partenaires européens sur le continent européen, qui n'est pas le projet économique et politique de l'Union européenne, mais qui est une relation qu'on établit avec des partenaires sur le continent. Et donc, il peut y avoir exactement les mêmes logiques au niveau du continent africain et de dire, il y a par exemple les organisations régionales, telles que la CEDEAO, par exemple, qui ont un pouvoir important, tant sur le plan économique que sur le plan politique dans la région. Et donc, l'un n'exclut pas l'autre, mais il doit y avoir une volonté du continent africain. On a parlé de la zone de libre-échange africaine. Moi, je pense que c'est effectivement une des priorités du continent africain. Et surtout, il faut faire en sorte que l'Europe ne vienne pas casser ces logiques. Parce qu'en même temps, l'Europe soutient des projets sur la zone de libre-échange africaine. Et nous finançons d'ailleurs, par le biais de projets européens, la zone de libre-échange africaine. Et en même temps, l'Europe fait des accords de partenariat économique bilatéraux qui, quelque part, viennent casser la logique de la zone de libre-échange globale africaine. Et donc, il faut que nous soyons cohérents aussi, en tant qu'Européens, sur ce que nous finançons d'un côté sur les zones de libre-échange et en même temps sur les partenariats bilatéraux que nous avons. Je prends la question de la migration. Quand vous avez une zone de libre-échange qui est établie dans la région de la CEDEAO, où les populations peuvent circuler comme elles veulent, et qu'en même temps, vous avez des partenariats bilatéraux européens qui, pour des raisons de migration, vont exiger que ces pays reforment des frontières et donc empêchent cette libre circulation des Africains sur leur même territoire, sur leur propre territoire. C'est complètement incohérent. Donc pour des raisons européennes qui, à mon sens, ne sont pas justifiées. Nous empêchons cette libre circulation qui est nécessaire pour les populations africaines pour pouvoir mieux développer entre les différents pays. Et donc, oui, nous devons être beaucoup plus cohérents en tant qu'Européens par rapport à notre relation à l'Afrique. Et je terminerai par la question des investissements. J'ai posé la question à M. Le Drian, qui dit « Il faut qu'on ait de nouveaux investissements sur l'Afrique ». On l'a vu, l'Europe est le premier investisseur aujourd'hui en Afrique, depuis longtemps. Est-ce que les investissements européens en Afrique ont eu un retour sur investissement sur les populations ? Eh bien non. Quand on regarde l'exploitation des ressources, la manière dont les choses ont été faites, eh bien ça a été de l'exploitation et non pas un vrai retour d'investissement sur les populations. Donc il faut revoir. Mais on est en train de travailler en Europe sur une loi sur la diligence raisonnable, donc c'est-à-dire sur la responsabilité des entreprises. Donc ça veut dire que ces entreprises européennes, quand elles iront en Afrique, elles auront l'obligation de respecter le droit des travailleurs ou le droit environnemental. J'espère qu'avec ces contraintes, elles auront la possibilité de travailler en Afrique, parce que peut-être que les responsables africains préféreront choisir des entreprises qui ne respectent pas ça, mais qui leur rendent la vie un peu plus facile sur leur territoire. Et donc il y a là, quand on parle de partenariat, il ne faut pas uniquement mettre la balle dans le camp des Européens en disant « on n'a pas fait notre travail », il faut aussi mettre la balle dans le camp des Africains qui n'ont pas toujours fait leur travail non plus.
Alors ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'aide européenne au développement n'a pas permis de faire évoluer la structure des économies africaines avec 35 pays qui exportent plus de 80% de la matière première non transformée. Pour l'économiste de Guinée-Bissau, Carlos Lopez, c'est l'héritage d'un modèle colonial qui relègue l'Afrique à un rôle mineur. Vous êtes d'accord avec ce constat, Sani Bilal ? Il faut industrialiser ?
Oui, alors le fait qu'il faut industrialiser, absolument, et c'est d'ailleurs une des priorités africaines. Ce qu'on peut regretter peut-être, c'est que du côté de l'Union européenne, on parle plus d'ajouter de la valeur. Il semble encore que le terme industrialisation fasse un peu peur. Mais on change quand même, lentement, mais on change. Donc définitivement, il faut de l'industrialisation. Les cadres dont vous avez parlé, les cadres de l'accord de Cotonou ou le partenariat économique, ce n'est pas des objectifs en soi. Ça doit être simplement des cadres qui facilitent. Donc, soyons francs, l'accord de Cotonou avant, il y avait un dialogue politique, il y avait de l'aide au développement qui était co-gérée par les pays ACP, par l'Union européenne, et il y avait des relations commerciales qui étaient gérées dans le cadre de cet accord. Tous ces éléments ont disparu. Donc, ça n'existe plus dans les accords post-Cotonou. Donc il n'y a plus de dialogue politique. Le dialogue politique se fait actuellement juste à côté de nous avec l'Union africaine. Il ne se fait pas au niveau de... Il y avait les institutions communes qui n'ont plus de rôle à jouer entre les ACP et l'Union européenne. Donc c'est très bien qu'il y ait un cadre. Et la question, bon, il est là, parce que les institutions ont de la peine à changer. Donc essayons d'en faire quelque chose d'utile. Et là, je suis d'accord avec Mme Arena. Si on peut avoir un dialogue, tant mieux. Mais ce n'est pas là que l'action se passe. Si on ne s'occupe pas du cadre post-Cotonou... Moi, j'entends pas beaucoup d'investisseurs qui parlent du cadre post-Cotonou.
Indépendance, tcha-tcha, Tozoumiye, Oti Fouaza, tcha-tcha, Toubakini, au table rond, tcha-tcha, Baganyeo, Oni Pada, tcha-tcha, Tozoumiye, Indépendance, tcha-tcha, Tozoumiye, Oti Fouaza,
sécurité, économie, prospérité, refonder en profondeur la relation entre l'Europe et l'Afrique. C'était le mot d'ordre de ce 6e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu à Bruxelles. Avec nous pour en parler, trois invités. Maria Arena, eurodéputée du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates et présidente de la commission droits de l'homme au Parlement européen. San Bilal, chargée des questions économiques pour le Centre européen de gestion des politiques de développement. Et Vivanou Gnassounou, économiste spécialiste des politiques du développement européenne. Alors, une annonce importante faite par les Européens ou présentée comme telle à ce sommet, c'est celle d'une stratégie globale d'investissement dotée de 150 milliards d'euros sur 7 ans à destination de l'Afrique. Vivanou Gnassounou, cet argent, c'est vraiment une nouvelle enveloppe ? Est-ce que c'est vraiment du nouvel argent ?
Je pense qu'il faut être franc. Il y aura certainement un peu de nouvel argent, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de comptabilité. il s'agit de mettre des ressources dans des cases. C'est bien déjà que l'approche a été adoptée de pouvoir avoir un cadre d'intervention avec le gateway où on se dit voilà, on a identifié les problèmes, on veut apporter massivement des ressources. Mais moi, je poserais le problème à l'envers un peu au niveau des investissements, se disant mais est-ce qu'on a regardé pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas jusqu'à présent? Est-ce que les instruments, les approches d'investissement, est-ce qu'il y a la rapidité de décision nécessaire? Est-ce qu'il y a la flexibilité qu'il doit y avoir? Et est-ce qu'il y a l'efficacité des instruments? Nous avons eu un débat quand le plan européen d'investissement extérieur a été lancé, en se disant on apportait une garantie. Une institution comme la Banque africaine de développement ou comme les banques régionales de développement ne s'engageront pas dans les investissements tout simplement parce qu'il y a une garantie européenne. Elles s'engageront parce que les projets identifiés sont des bons projets. Elles s'engageront parce qu'on les associe aux décisions d'identification de ces projets et à leur évolution. Donc, les montants annoncés, ils sont bien, mais encore une fois, est-ce qu'on annonce des montants?
C'est du rétictage, vous me disiez.
Oui, parce qu'on annonce des montants, il faut du volume pour pouvoir faire contrepoids par rapport à ce que ceux d'Extrême-Orient font sur le terrain. Très bien, mais moi j'attends de voir un peu, parce que quand on regarde ces montants, on voit les volumes qui ont été annoncés par rapport à la coopération, par rapport à l'enveloppe du NDICI là, qui va venir de 2021-2027, il faudrait peut-être qu'on s'asseye et qu'on regarde qu'est-ce qui est vraiment nouveau. Il y a le Team Europe dont on nous annonce...
Au-delà de l'annonce, donc voir à quoi ça va servir. Voilà, on a beaucoup parlé de New Deal pendant ce sommet, Sané Bilal. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans cette approche? Il y a quelque chose de nouveau?
Bon, il y a déjà une approche stratégique qui est nouvelle. Hein, et on ne peut quand même pas dire que les investissements européens n'ont pas servi aux populations locales. C'est quand même l'objectif des investissements. En même temps, quand on parle du co-bénéfice, d'une partenariat entre l'Afrique et l'Europe, je trouve que c'est plutôt sain que les Européens veuillent investir en Afrique, pas simplement pour comme générosité, faire un don, comme si l'Afrique mendiait un soutien, mais que le fasse pour que ça soit aussi dans l'intérêt des Européens. Alors, en fait, les deux continents sont quand même très fortement liés, donc le fait qu'il y a une prospérité en Afrique, c'est aussi positif pour l'Europe. Cela dit, entre parenthèses, j'aimerais aussi qu'au niveau d'un partenariat Afrique-Europe, on parle aussi un peu plus d'Europe. C'est ça, un partenariat équilibré, pas simplement parler de l'Afrique. Mais en tout cas, en termes de garanties aussi, par exemple, l'avantage des garanties européennes, c'est qu'elles permettent de réduire les coûts pour les investissements et d'attirer plus d'investisseurs étrangers. La Banque africaine de développement n'attend pas les garanties européennes pour faire son travail. Et les banques européennes de développement ne vont pas faire des investissements qui seraient mauvais simplement parce qu'il y a des garanties. Donc les garanties permettent simplement d'investir dans des pays qui sont peut-être plus vulnérables, plus fragiles, dans des situations qui sont plus compliquées, prendre moins de risques et permettre un investissement, entre autres un investissement privé, mais également des institutions publiques, qui puissent être plus durables, plus pérennes. Et donc, c'est ça l'objectif. Cela dit, l'Union européenne a un budget pluriannuel qui a été établi jusqu'en 2027. Donc, ce que l'Union européenne essaie de faire avec son budget, c'est d'essayer d'avoir une approche plus stratégique. Donc, ça, c'est le Global Gateway. Mmh. Si on veut vraiment qu'il y ait plus d'argent, il faut que cette approche Team Europe, qui est une équipe Europe, il faut que les pays européens qui sont en dehors du budget de l'Union européenne rajoutent et qui aient cette synergie et qui travaillent pas simplement à travers leurs propres mécanismes, mais à travers des mécanismes africains. Donc c'est ça qui permet l'appropriation au niveau africain. Et donc la Commission européenne fait avec le budget qu'elle a. Elle fait ce qu'elle peut et qui a été approuvé par le Parlement européen. Donc si on veut faire plus, c'est aux États membres européens de faire plus et de combiner la mobilisation de ressources européennes avec la mobilisation des ressources africaines. Le développement en Afrique ne se fera que par l'Afrique à travers les institutions africaines.
Alors justement, Maria Arena, cet argent doit servir, je cite, à aider des projets portés par les Africains pour la transformation de leurs économies. Cette approche est vraiment nouvelle avec ce système de garantie, de prêt.
Comment ça? Il y a plusieurs choses et c'est ce qui vient d'être dit. C'est ce qu'on appelle le fléchage, en fait. Et donc, quand on annonce 150 milliards d'investissements, c'est de pouvoir avoir une approche fléchée par rapport à des objectifs qui devront être définis dans le sommet qu'on a aujourd'hui. Et donc, quand on entend Macky Sall qui dit, pour nous, la question de l'électricité, l'accès universel à l'électricité, eh bien, ça peut être un des fléchages de l'investissement européen en fonction, effectivement, des besoins qui ont été définis par les Africains. Et donc ça, je pense que c'est important comme instrument, plutôt que d'avoir une logique qui est une logique éparpillée, dans laquelle on a des États membres qui rentrent dans leurs intérêts particuliers et l'Union européenne qui, elle, essaye d'avoir une approche plus globale. Ici, on met tout le monde ensemble, y compris la Banque européenne d'investissement qui a créé sa branche internationale et qui veut vraiment être beaucoup plus active sur le territoire africain. Donc je pense qu'il y a vraiment là une volonté stratégique d'accompagner les transformations avec le continent africain parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Si on prend la question climatique, est-ce que c'est dans l'intérêt des Européens de voir l'Afrique plutôt faire sa connexion énergétique avec des énergies fossiles ou est-ce que c'est dans l'intérêt des Européens de voir l'Afrique faire sa connexion énergétique avec des énergies renouvelables? Je pense que quand on voit l'accord de Paris et les différentes COP, soutenir l'Afrique vers les énergies renouvelables, c'est intéressant de le faire de cette manière-là. Donc c'est vraiment une logique de fléchage tel qu'on l'a eu en Europe avec le plan de relance. On a fait exactement la même chose en Europe. On a dit il y aura un plan de relance, c'est pas que de l'argent frais, mais il faut que ce soit fléché.
L'Europe, premier partenaire du continent, veut proposer un partenariat économique équilibré, on l'a dit, mais les discours des Européens sont parfois contredits par des politiques commerciales agressives. Je pense à la filière du lait, par exemple, en Afrique. Le lait produit en Afrique ne se vend pas, car le lait en poudre européen est moins cher. Est-ce qu'il peut y avoir une relation équilibrée véritablement entre ce géant commercial qu'est l'Europe et l'Afrique, San Bilal?
L'équilibre, ça se décide pas. Donc, en fait, il y aura une relation vraiment équilibrée qu'à travers le développement et l'émergence du continent africain qui est en train de se produire.
Je pense que. Cette politique de vendre ses surplus, les surplus européens, par exemple, est-ce que l'Europe finalement ne participe pas quelquefois à la destruction de certaines filières en Afrique et plutôt qu'à leur naissance ou émergence.
Il faut faire attention. Madame Arena parlait, par exemple, des accords de partenariat économique. Il faut quand même savoir aussi que l'Union européenne ne demande pas une ouverture totale dans ses accords de libre-échange, de demander une ouverture totale des marchés. Il y a 20% des produits africains qui peuvent être exclus de la libéralisation. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est plutôt de réfléchir comment, à travers... Parce que l'Afrique ne peut pas vivre de manière isolée en vase clos. Donc, ce qui est intéressant, et l'Europe non plus. Donc, mais ce qui est intéressant dans les dynamiques africaines, c'est en effet cette zone de libre-échange continentale africaine qui se met en place avec l'objectif, pas juste de libéraliser le commerce, c'est vraiment un objectif de favoriser les échanges, de créer des marchés plus larges, d'avoir une valeur ajoutée, de développer les infrastructures, de développer aussi l'éducation et la formation des travailleurs, donc d'avoir des filières qui ont une plus grande valeur ajoutée. Et ensuite, quand on fait ça, il faut trouver des débouchés dans les marchés. Et donc, les débouchés dans les marchés sont à travers le continent africain et sont aussi à travers d'autres partenaires. Et je trouve que ce qui est intéressant avec l'Union européenne, c'est entre autres, quand on parle d'une diligence raisonnable ou quand on parle de valeurs même démocratiques et de droits des responsabilités dans le travail, on cherche à avoir vraiment une prospérité qui soit de qualité. Et donc ça, on le fait aussi à travers des accords commerciaux. Mais si on veut le faire et que ça soit vraiment... Il ne suffit pas de mettre des règles supplémentaires. Il faut aussi donner les moyens et accompagner les États africains, entre autres les plus pauvres, à pouvoir adhérer à ces règles plus élevées. Et donc, ça, d'où l'importance aussi de l'aide au commerce et de l'investissement et du soutien à l'investissement pour permettre d'avoir un niveau de qualité des investissements qui soit plus grand.
L'Afrique est courtisée, elle a le choix de ses partenaires. C'est une phrase qu'on a aussi beaucoup entendue du côté européen et africain ces derniers jours à Bruxelles. Et un concurrent important en Afrique, un rival systémique même, dit Bruxelles, c'est la Chine, premier partenaire commercial bilatéral du continent avec des échanges directs que les autorités chinoises estiment à plus de 200 milliards de dollars en 2019. L'Europe, c'est 225 milliards d'euros, mais c'est 27 pays. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Léa, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Pékin. La Chine, qui depuis 2013 étend ses routes de la soie jusqu'en Afrique, c'est même le continent qui compte le plus d'États membres de ce vaste projet chinois d'investissement.
Oui, 44 pays font partie des BRI, donc la Belt and Road Initiative, ou en français le projet ceinture et route du président Xi Jinping, un projet global, Léa, taillé pour les pays en développement. On a des bureaux de la Belt and Road Initiative dans les pays qui ont signé les mémorandums d'accord, bien sûr, mais aussi dans le sud-est de la Chine, par exemple, où avant le Covid venaient de nombreux commerçants africains. J'en ai visité un de ces bureaux sur le marché du détail international d'Iwu, où il y a encore une fois de nombreux hommes d'affaires venus d'Afrique. Pour avoir des facilités de contrat avec les entreprises chinoises, il faut rejoindre un club en quelque sorte. Il faut en tout cas adhérer à ces nouvelles routes de la soie chinoises. On l'a vu encore lors du 8e forum sur la coopération sino-africaine en novembre dernier à Dakar, où deux pays, l'Érythrée et la Guinée-Bissau, ont rejoint les BRI. C'est du donnant-donnant à la chinoise. D'un côté, la Chine, pays continent, est en manque de terres arables et de matières premières qu'elle trouve en Afrique. Elle a aussi besoin de débouchés pour ses surcapacités productives d'infrastructures. Dans la route de la soie, il y a aussi des routes, mais il y a aussi les rails de la soie. L'Afrique a besoin de routes, de trains pour se développer et d'infrastructures. Donc, elle a aussi besoin de financement et seules les banques chinoises peuvent financer rapidement les projets routes, mais aussi aéroports, stades, bâtiments officiels qui sont construits donc par les Chinois.
Le partenariat proposé par l'Union européenne se veut innovant et respectueux des pays africains, des Bruxelles. Sous-entendu, le projet des concurrents chinois ne l'est pas. On a parlé du piège de la dette notamment.
Oui, et d'une diplomatie piégeuse, un modèle de financement qui fait que lorsque le pays a des difficultés, eh bien, il pourrait perdre le contrôle de ses propres infrastructures. Alors c'est vrai que la diplomatie chinoise du chéquier a pu déséquilibrer les finances de certains pays, mais Pékin se défend en tout cas de toute mauvaise intention et considère même ces accusations comme de la diffamation. Compte tenu du poids de la dette de certains États, les investisseurs chinois donc se sont fait taper sur les doigts et invités à davantage de prudence dans le choix de leur financement. Il n'y a pas de piège de la dette, il n'y a qu'un piège de la pauvreté, a redit Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, lors de son voyage au Kenya en janvier dernier, où la Chine est le deuxième créancier du pays avec la Banque mondiale. Elle finance notamment, entre autres, la construction d'un nouveau terminal à Mombasa, alors que la dette kenyane a bien explosé ces dernières années. Voilà. Et puis, innovant, vous avez employé ce terme, on a vu aussi ces derniers mois évoluer le discours chez les Chinois qui parlent aujourd'hui de transfert de technologies dans la coopération médicale, notamment et la fabrication, par exemple, de vaccins.
Et l'Europe dans tout cela, est-ce qu'il y a des terrains d'entente possibles avec la Chine en Afrique ?
Oui, c'est en tout cas ce que veulent laisser croire les Chinois. Si vous n'adhérez pas directement au BRI, les routes de la soie permettent des accords de coopération dans les pays tiers, c'est comme ça qu'on les appelle. Les autorités chinoises ont annoncé le 14 février dernier, c'est tout récent, la conclusion ainsi d'un accord entre la Commission nationale pour le développement et la réforme, donc le planificateur chinois, avec le ministère français de l'économie et des finances. Ça s'est fait dans la plus grande discrétion côté français. Le projet d'accord remontait en fait à 2015. Depuis, Paris se plaignait d'un enlisement. C'est donc signé. L'accord de coopération porte sur 1,5 milliard d'euros dans différents projets d'infrastructures, des énergies renouvelables aussi et de la protection de l'environnement. Pékin envoie un message à la France avec cet accord qui préside l'Europe. On ne fait pas cavalier seul en Afrique, dit Pékin. On peut travailler ensemble, même si on parle encore quand même d'une goutte d'eau dans le gigantesque programme d'investissement que représentent ces nouvelles routes de la soie chinoise. Le président chinois a aussi rappelé qu'il comptait sur Paris pour faire avancer le traité d'investissement sino-européen qui lui aussi stagne depuis quelques mois.
Maria Arena, je m'adresse à vous. Faut-il envisager la possibilité d'associer la Chine à ce partenariat Europe-Afrique ?
Mais moi, je pense que tout simplement, c'est les Africains qui doivent choisir effectivement les partenaires économiques, financiers avec lesquels ils veulent travailler. Vous savez, nous, en Europe, on travaille avec des investissements chinois. Il y a des investissements chinois en Europe, il n'y a pas d'exclusivité. Et donc, je ne vois pas en quoi les Européens doivent se mêler de la relation que les Africains ont avec la Chine. Je dis tout simplement que, autant en Europe, on est en train de réfléchir à notre autonomie stratégique par rapport aux investissements chinois, parce qu'il y a effectivement des dangers de perte d'autonomie stratégique. Et je pense que les Africains doivent avoir la même réflexion, que ce soit avec les Chinois ou avec d'autres, de pouvoir maintenir leur autonomie stratégique avec qui que ce soit, y compris avec les Européens. Et ça, ça relève vraiment de la stratégie africaine.
Alors il y a la Chine, mais aussi la Turquie ou la Russie qui courtisent le marché africain. On a senti comme une certaine nervosité du côté des Européens ces derniers jours. Que doit faire l'Europe, San Bilal, pour ne pas se faire doubler ?
Ouais, l'Europe essaie justement de se positionner comme un investisseur important. Tout à l'heure, votre correspondant disait qu'il y avait, que les Chinois disaient qu'il n'y avait pas de piège de la dette, mais qu'il y avait une piège de la pauvreté. Là, ce problème, c'est que quand on est trop endetté, le résultat, c'est la pauvreté. Donc, il y a un problème de la dette. Le problème principal avec les Chinois n'est pas ce qui est une dette chinoise. Ce n'est pas en tant que tel un problème, mais c'est le manque de transparence. Et donc, il faut que la Chine rentre dans le système international. On essaie de le faire au niveau du FMI pour qu'on puisse traiter les problèmes de la dette de manière globale et pas de manière segmentée. Ça, c'est un des éléments. Pour l'Europe, il faut accepter qu'il y a une concurrence. Et la concurrence, c'est bien parce que c'est une diversité de propositions. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'Afrique doit pouvoir avoir des partenariats différenciés. Donc, c'est pas choisir. L'Afrique n'a pas à choisir entre l'Europe et la Chine ou la Russie et la Turquie ou le Maroc, ou parce qu'il y a aussi des investisseurs au sein de l'Afrique. Mais ce qui me semble peut-être un peu dommageable, c'est que l'Europe tend à être un peu obnubilé, à mon avis, par la Chine, et donc devrait plutôt penser à sa relation avec, avec l'Afrique et moins se préoccuper de la Chine, accepter qu'ils sont concurrents et se donner les moyens pour être des bons concurrents, y compris sur la qualité et sur le, ce qui concerne les populations, mais de temps en temps considérer aussi la coopération. Et donc je trouve que l'exemple, entre autres, de la coopération entre la Chine et la France est un bon exemple. Quand on veut faire des grands investissements dans les infrastructures, c'est jamais une entreprise toute seule, c'est très souvent sous forme de consortium. Donc, il y a un besoin de coopérer et parfois aussi avec ses concurrents. Donc, je pense qu'il y aurait matière à essayer d'avoir un dialogue plus stratégique entre l'Europe et la Chine sur ce qu'ils pourraient faire ensemble en Afrique. Et je dirais plus globalement, pas simplement la Chine, mais aussi avec l'Inde, avec le Brésil, avec les États-Unis. On sent un peu cette concurrence au niveau africain qui est une bonne chose, mais il n'y a pas besoin d'avoir constamment la rivalité et de la... d'en faire un élément si important. Ce qui compte, c'est, et je terminerai là, c'est que vraiment, à chaque fois, ce qui est important, c'est qu'on travaille à travers des mécanismes africains. Mmh. Et je crois que c'est ça qui manque encore dans le partenariat, c'est que chacun essaie d'avoir ses outils pour être avec l'Afrique, mais ce qu'il faut, c'est qu'on travaille à travers des mécanismes africains qui soient gérés par des acteurs africains. C'est uniquement comme ça qu'il y aura un bon partenariat.
Selon vous, pour conclure, Vivanouk Nassounou, que doit faire l'Afrique ? Continuer à se servir là où on lui propose de l'argent, ou ne pas être exclusif, ou peut-être mieux choisir ?
Non, je pense que l'Afrique a mûri beaucoup plus que ça. Heureusement, vous savez, aujourd'hui, pour parler de la relation avec les autres concurrents de l'Europe, il y a une notion qui est simple, mais pas apparemment si simple que ça, qui est celle de la coopération triangulaire, sud-sud et triangulaire, où on se dit que les pays du sud sont peut-être mieux à même d'identifier des solutions techniques dans d'autres pays du sud et venir ensemble avec ces pays du sud vers des partenaires du nord et voir comment est-ce qu'on peut les appuyer pour faire la mise en œuvre. Je pense que ça reste beaucoup inexploité et c'est un élément sur lequel peut-être que dans la mise en œuvre de ce qui va sortir de ce sommet de Bruxelles, il faudrait voir comment est-ce que les Africains, avec leurs partenaires chinois, brésiliens ou indiens, peuvent travailler avec l'Europe. Quand l'Afrique fait des sommets avec l'Inde ou avec la Chine, il n'y a pas toute cette dramaturgie qui se fait. Et c'est pour vous dire que peut-être que du point de vue de l'Afrique, l'Europe est beaucoup plus importante. Parce qu'il n'y a pas toute une série de préparations des hauts fonctionnaires, avoir une déclaration conjointe. Pour les Africains, l'Europe est un partenaire important et qu'il ne faut pas rater la relation. Donc on fait tout pour s'assurer que jusqu'au bout, on donne les éléments nécessaires pour le faire. L'Europe a un rôle important. L'Afrique n'est pas dans une logique d'aller se servir là où elle peut, mais elle va là où, selon ce qu'il y a sur la table, on a un intérêt à y aller. Je pense que l'Afrique a grandi, a mûri. Elle a une palette de partenaires dans laquelle elle essaie de faire son choix. Est-ce que ça se résout seulement à se dire elle choisit, elle se sert en fonction de son appétit ? Oui, il faut manger selon son appétit, il ne faut pas manger plus que ça, mais il faut manger à satiété. Donc, c'est une logique qui va... Ça ne va pas être facile, mais je pense qu'on commence à tenir le bon bout. Est-ce que le logiciel a complètement changé ? Peut-être pas encore, mais les choses ont évolué, effectivement, même dans le format, même dans la forme. Il y a eu beaucoup plus d'acteurs privés. Et moi, j'étais stupéfait de voir que dès lundi, les milieux d'affaires ont pu sortir, entre Africains et Européens, une déclaration conjointe.
Sécurité, économie, prospérité, merci d'avoir passé en revue ces grandes problématiques. Merci à Ludivine Amado et Alice Ménard à la réalisation de cette émission. Merci à nos invités. Maria Arena, eurodéputée du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates et présidente de la Commission des droits de l'homme au Parlement européen. San Bilal, chargée des questions économiques pour le Centre européen de gestion des politiques de développement. Et Vivanouk Nassounou, économiste spécialiste des politiques du développement européenne. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Carrefour de l'Europe.
Hello la famille, c'est Juliette Fiévé.